Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, nous allons célébrer ensemble Saint-Pierre-Julien-Aymard, qui est fêté en principe le 3 août. Je suis donc 2 mois en retard, mais au mois d'août, il n'y a pas d'émission de Rencontre spirituelle. Je l'ai donc reporté au 3 octobre. Il est mort en 1868, Saint-Pierre-Julien-Aymard. Et ce qu'il a fait est grandiose. Il a fondé la congrégation du Très-Saint-Sacrement, qui est présente à Montréal depuis plus de 100 ans sur l'avenue du Mont-Royal, tout près du métro, où ils ont une église superbe qui, ça n'y paraît pas de l'extérieur comme ça quand on passe devant. Entrez, vous verrez une très belle église. Et les Pères du Saint-Sacrement célèbre la messe, heureusement, très nombreuses fois durant la journée, un peu moins maintenant parce qu'ils ont moins de religieux. Et les messes sont en général fort belles, ou du moins fort pieuses. Ce fondateur, Saint-Pierre-Julien-Aymard, a été canonisé en 1962 seulement. Il avait été béatifié en 1924 ou 25. Et il était devenu tout d'abord religieux, je le signale en passant, dans la Société de Marie. Et puis il a quitté cette congrégation, un peu comme Mère Teresa a quitté sa propre congrégation pour fonder. Eh bien, il a fait comme Mère Teresa, il est parti à 45 ans lui aussi. Et c'est comme ça qu'il a fondé les Pères du Très-Saint-Sacrement. Il est né de parents qu'on dit profondément chrétien, à Lamure, dans l'Isère, c'est dans la région de Grenoble, disons au pied des Alpes, dans le sud de la France, en direction de l'Italie, de Rome. Il est né le 4 février 1811, puis il appartient à cette lignée de saints que le mal ne semble pas avoir beaucoup effleuré, en dépit d'une enfance extrêmement difficile. Si je vous racontais comment son père le traitait, vous seriez plutôt terrifié. On lit ça et on se dit, mais c'est pas possible. Hein? Simplement pour avoir voulu courir dans la neige quand il était enfant, bien on raconte que son père l'a frappé si fort que le sang coulait sur ses jambes. Vous savez, c'est être traité comme ça, on se dit, comment a-t-il pu, par après, tant aimer Dieu? Et tant reconnaître en Dieu son Père, tant vénérer son Père, c'est extraordinaire. C'est un homme qui est sorti des problèmes que son Père avait suscités dans son cœur, j'imagine. C'est un exemple à suivre pour certains d'entre nous. Et il n'a pas ignoré le mal, il était élevé pieusement par sa mère et sa sœur. Il a été mis en garde à son jeune âge contre les malheurs des dérèglements. On rapporte aussi de lui un trait qui rappelle le roi Saint-Louis. À ses passages à Lamure, où il est né, il manquait jamais d'aller prier longuement devant les fonts baptismaux, où il était né à la vie surnaturelle. Avez-vous déjà pensé à faire ça? Je suis allé l'autre jour, je peux le mentionner, avec Luc Faneuf dans la paroisse où il est né. Il avait besoin, pour aller faire ses études à Rome, de son acte de baptême, comme on dit, son baptistère. Et je me suis retourné à un moment donné et je l'ai vu à genoux près des fonts baptismaux qui priaient. J'avais jamais pensé à faire ça, je devrais aller faire ça à Sainte-Madeleine d'Outremont. C'est une excellente idée, je crois. Et voilà que il priait, Pierre-Julien-Aymard, comme ça, conscient qu'il était né à la vie surnaturelle, par le baptême. De bonne heure s'est manifestée sa grande dévotion à l'Eucharistie. Le 16 mars 1823, à 12 ans, il a pu enfin s'approcher de la Sainte Table et faire sa première communion. Et ce jour-là, il a décidé, vraiment, là, de se consacrer à Dieu. Il était décidé très jeune, comme vous voyez, c'est admirable. Il a décidé d'être le prêtre de Dieu. Mais son père, qui avait déjà perdu tant d'enfants, n'avait pas le courage de se priver du seul fils qui lui restait. Alors Pierre-Julien-Aymard a donc dû étudier le latin en cachette. Tout en continuant d'aider son père dans son commerce, hein, il apprenait des déclinaisons, comme on dit, des conjugaisons. Vous savez ce que c'est, vous qui avez étudié la grammaire, hein. Puis, ça ne l'empêchait pas d'aller livrer l'huile de son père, ou d'aller au pressoir où on faisait de l'huile. Puis, dans l'espoir d'en recevoir des leçons, il est entré au service d'un prêtre à Grenoble. Ça a été d'abord le moment où il a perdu sa mère, ça a 17 ans, en 1828. Ça lui a fait très mal, à 17 ans. Peu après, le futur cardinal Guibert a insisté auprès de lui et auprès de certaines personnes. Et tout s'est arrangé, ça lui a obtenu enfin d'entrer au noviciat des Oblats de Marie Immaculée à Marseille, qui venait d'être fondée, et je vous en ai déjà parlé, en parlant de leur saint fondateur, Monseigneur de Masnode. Paraît-il qu'il faut dire de Masnode, comme on dit du Pernod. J'ai appris ça. Et puis, il en est revenu après 6 mois seulement. Il était si malade qu'il a failli mourir. Il faut croire que la vie chez les Oblats était difficile. Mais il a guéri. Mais ce fut pour perdre son père en 1831, 3 ans après sa mère. Donc il avait 20 ans. À 20 ans, il est orphelin. Il est libre désormais. Et Pierre-Julien Aymard prend la route du Grand Séminaire, où il est bien accueilli grâce à la recommandation du fondateur des Oblats, qui l'aimait beaucoup. Malgré ses études antérieures très incomplètes, il a réussi très bien au Grand Séminaire. On a des résultats de ses notes et c'est surprenant. Puis il a été ordonné prêtre le 20 juillet 1834 à 23 ans. Imaginez-vous ça. Aujourd'hui, on n'imagine plus ça, les prêtres ordonnés à 23 ans. Puis il n'y a pas si longtemps, on en a ordonné beaucoup à 23 ans. J'imagine un gamin, presque, de 23 ans, assis dans un confessionnal et dirigeant les âmes. Mon Dieu! Et pourtant, je me souviens de m'être confessé à des jeunes prêtres comme ça qui étaient excellents. Ils étaient remarquables. Les temps ont bien changé. Alors, il a été d'abord 4 ans vicaire, dans un endroit, au nom surprenant, chatte, comme une chatte. Puis il a été curé de la petite paroisse de Monténard, près de la Mure, où il est né. Il a fait, dans cette paroisse, demeurer sans prêtre depuis la Révolution, donc depuis un bon bout de temps, la Révolution 1890, 89-90, il a fait un bien considérable. C'était un prêtre au cœur de feu. Mais ayant entendu parler du père Colin, puis de la Société de Marie, dont je vous ai parlé au début, son goût de la vie religieuse l'a repris, puis le 20 août 1839, malgré les pleurs de sa sœur puis les regrets de ses paroissiens, il est entré au noviciat de la Société de Marie à Lyon, toujours dans le sud de la France, si on peut dire. Puis la dévotion à Marie puis au Saint-Sacrement, ça a bouleversé son âme, ça l'a rempli. Mais il n'y a pas... Il ne trouve pas beaucoup de temps de s'attarder à la contemplation parce qu'il est nommé bientôt directeur spirituel du collège de Belley, dans le diocèse où est Ars, ça, dans ce temps-là. Et puis, ce ministère, ça ne cadrait pas tellement avec ses goûts, mais il a pris ça à cœur. Puis il a eu là le même rayonnement qu'ailleurs par l'exemple de sa vertu. L'exemple de sa vertu. Par ses exhortations aussi, il savait parler des choses de Dieu avec passion, avec enthousiasme, avec conviction, parce qu'il y croyait. Pour lui, c'était plus réel que la réalité. Alors en chair, il était bouleversant. Au confessionnal aussi, parce que tout ce dont il est question dans un confessionnal était pour lui beaucoup plus réel que le bois du confessionnal, que la statue voisine, que n'importe quoi. Puis, il était comme ça aussi quand il parlait de Marie. Et l'estime générale s'est traduite par la nomination à la charge de provincial, finalement, dans la Société de Marie, Ça lui a été conféré par le fondateur, le père Colin, après 4 années de profession seulement, donc en 1844. Il a 33 ans. Il vient donc résider à Lyon, où il s'empresse de lui confier sa détresse à Marie. Il se sent honteux de tenir le premier rang à 33 ans. Et à Lyon, il faut mentionner ses relations avec cette merveilleuse laïque, cette femme merveilleuse, Marie-Pauline Jaricot, dont je vous ai déjà parlé, la fondatrice de la propagation de la foi. Hier, je vous ai dit qu'en donnant 100 $, on donne 4 $ par semaine. Pas du tout, on donne 2 $ par semaine. Quant à la quête pour la propagation de la foi, c'est-à-dire pour favoriser les missions, aider à construire tout ce qu'il faut se construire, nourrir nos missionnaires, payer leurs déplacements, leur acheter une motocyclette, une bicyclette, une voiture, un camion, acheter des remèdes, acheter les choses qu'il faut pour sauver les pauvres et aider les enfants, tout ce qu'il faut pour répandre l'Église à travers le monde. 2 $ par semaine, 100 $ par année à la quête de la propagation de la foi. Ce serait, j'imagine, aujourd'hui le rêve de cette Marie-Pauline Jaricot qui a fondé ça. Et il a été le soutien de cette femme. Son influence a été grande dans tous les milieux. Mais l'activité de Pierre-Julien Aymard s'est concentrée spécialement sur le tiers-ordre de Marie, c'est-à-dire des laïcs qui ont une dévotion particulière à la Sainte Vierge, un groupe qui a été institué par le père Colin, puis à qui il redonne la vie. Ce sont les congrégations mariales, en fait. J'ai déjà fait partie de ça quand j'étais jeune, et je me souviens que ça m'a ouvert mon cœur un peu à ce qui était la Sainte Vierge. Ça n'existe plus pour les enfants, j'imagine. Et il y avait un groupement masculin, donc un groupement féminin plus important. Pas tous, le père traçait fermement la voie, parfois avec humour. Et il dit quelque chose de très amusant, je vous le signale, avant d'écouter un peu de musique. Il dit, il écrivait à une jeune fille un jour, « Vous n'aimez pas la vieille fille dans le monde? Et moi, je la préfère à la vieille religieuse, à la mère, la plus méritante. Pourquoi? C'est qu'elle est vierge et martyre en même temps. » C'est assez sympathique. Écoutez bien ça. Il parlait des vieilles filles, là. Il dit, « Elle porte au milieu d'un monde païen ou indifférent le drapeau virginal du Sauveur. Elle est sa disciple bien-aimée. Ainsi, mademoiselle, pensez comme moi. Une vieille fille est comme cette vieille garde impériale, David de Napoléon, couverte de blessures et de gloire, fruit de 1000 combats. On s'incline de respect devant ce vétéran. » Que c'est amusant. Que c'est sympathique de penser et de réfléchir de cette façon. Et maintenant, nous allons écouter « Jubilate et Deo » interprété par des trappistes. Ce sont les moines de l'abbaye de Melleret de Bretagne. C'est pas tellement loin de Nantes. Et c'est une abbaye très importante, hein, qui a été fondée en 1142. Il y a toujours des cisterciens là, des trappistes. Et l'église abbatiale date du 12e siècle. Hein, c'est fantastique, il faut voir ça. Je reviens donc à Saint-Pierre-Julien-Aymard en 1849. Il a donc 38 ans. Un voyage à Paris le met en contact avec l'œuvre naissante de l'adoration nocturne. Qui a fondé ça? Un juif. Un juif avec un nom juif, un Hermann Cohen, qui était Carme. Je vous ai déjà parlé de lui. C'est un saint, ça, Hermann Cohen. C'est un musicien aussi. Un homme admirable, Hermann Cohen. Et à Lyon, aussi, des âmes d'élite se groupent autour de lui pour la même œuvre. Et peu à peu, il découvre sa voie. Puis là, le 2 février 1851, à Fourvières. Fourvières, c'est à Lyon, c'est la montagne, là où il y a une basilique du 19e siècle, qui est pas particulièrement belle, mais qui est un lieu de grande dévotion à la Vierge à Fourvières. Alors il raconte que le 2 février 1851, Marie se montre à moi vêtue de blanc et me dit qu'elle voulait que je me dévoue à faire honorer son divin Fils dans l'Eucharistie, dans le mystère de l'Eucharistie. 5 années le séparaient encore de la réalisation de ce projet, hein? Et il passe au collège de la Seine à Toulon, c'est au sud, là, dans Toulon, c'est sur la Méditerranée, en bas, là. Puis il devient supérieur. Et là, il rencontre son principal collaborateur, un officier de marine, qui est très religieux, et qui a un énorme respect, un énorme amour pour le Saint-Sacrement. et qui ne tarde pas d'ailleurs à devenir prêtre, cet officier de marine. Alors tous deux, Saint-Pierre-Julien Aymard et cet officier de marine, se concertent pour réaliser l'œuvre demandée par Dieu, et le 18 avril 1853, dans son action de grâce, il raconte « Une pensée douce, paisible mais forte, m'a rendu heureux de me dévouer au service du Très-Saint-Sacrement et d'en demander la permission. Il me semblait que j'étais disposé à faire tous les sacrifices pour Jésus au Très-Saint-Sacrement. » Hein? Quelle foi il a dans la présence réelle. Hein? Quand on appuie sur la présence réelle, si on a toujours au cœur la conviction que le cœur de notre foi, c'est la messe, c'est le sacrifice eucharistique, on ne perd rien, au contraire. On augmente notre conviction que la messe est vraiment nécessaire chaque jour à notre vie spirituelle comme une nourriture dont on a faim, j'allais dire dont on a soif. Des sacrifices. Saint-Pierre-Julien Aymard va en avoir des sacrifices. Car son supérieur général, le père Colin, craint de perdre un tel homme. Il essaie de le détourner vers une œuvre similaire qui dépend de sa congrégation, la Société de Marie, puis il résout de montrer au pape la perte que lui serait le départ de ce saint. Mais un oubli inexplicable lui fait omettre d'en parler à l'audience, au pape. À son retour de Rome, il le met dans la dure alternative de renoncer à s'occuper de cette fondation ou de quitter la Société de Marie. Après une retraite de 12 jours à Paris, après avoir consulté le père Aymard, Saint-Pierre-Julien Aymard maintient sa décision de s'occuper de l'œuvre nouvelle qu'il veut fonder, la Société des Pères du Très-Saint-Sacrement. C'est en 1856, il a 45 ans. Alors, il est muni de ce qu'on appelle l'exéat. Exéat, c'est un document qui permet de quitter une congrégation pour en fonder une autre. J'imagine que Mère Teresa a obtenu un exéat comme ça de Rome, car elle appartenait à la congrégation des Sœurs de Lorette. Hein, vous vous souvenez? Je vous ai raconté sa vie il y a quelques semaines, le 10 septembre. Alors, il est muni de l'exéat, puis de la bénédiction du supérieur général des Maristes, de la Société de Marie, quoi. Et Saint-Pierre-Julien Aymard s'établit à Paris au 114, écoutez bien, de la rue d'Enfer. Oui, d'Enfer, D'Enfer. C'est une rue à Paris qui est très reconnue, très connue. Dans une villa qui avait appartenu à Chateaubriand, imaginez. Lui, Chateaubriand, qui est mort, était mort quelques années plus tôt, en 1848, si je me souviens bien, puis... C'est lui l'auteur du génie du christianisme en 1802 et qui était ambassadeur, qui était ministre des Affaires étrangères aussi. C'était un grand écrivain catholique et donc il habite une 114 rue d'Enfer dans une villa qui appartenait à Chateaubriand. Puis finalement rue du Faubourg Saint-Jacques et ce sont des débuts pénibles, incertains, précaires. Il y a peu de vocations et souvent bien chancelantes. Hein. Le premier compagnon de Saint-Pierre-Julien Aymard, lui-même, se décourageait assez souvent. Puis, il y a eu la mort de Mgr Cibourg, l'archevêque de Paris, qui a privé la Société des Pères du Très-Saint-Sacrement de son meilleur protecteur. Et au milieu de toutes ces angoisses, le fondateur a gardé la sérénité et la confiance en Dieu. Puis la première œuvre tentée dans le quartier ouvrier miséreux du Faubourg Saint-Jacques a été la première communion des adultes et travailler à ça. Peu à peu, la fondation s'affermissait, puis en 1859, elle pouvait s'aimer, comme on dit, à Marseille. Mais cette même année, elle obtenait ce qu'on appelle un bref laudatif, c'est-à-dire un document qui rend hommage, qui louange. Et ça venait de Rome, évidemment, et en 1864, il y a eu une approbation canonique, c'est-à-dire légale, si vous voulez, une approbation légale. En 1862, s'est ouverte la maison d'Angers, à Angers. Puis, est venue celle de la fondation à Bruxelles en 1866. Alors, vous voyez que ça s'étend, puis en même temps, ça amorce la création de la congrégation des servantes du Très-Saint-Sacrement, qui ont un grand couvent à Québec. Parmi les premières recrues, il y a eu un très grand sculpteur, Auguste Rodin, qui s'appelait le frère Augustin. Et le frère Augustin a fait le buste de Saint-Pierre-Julien-Aymard, et c'est, je dirais, le saint des temps modernes qui a eu le plus grand artiste, sculpteur, pour faire son buste en bronze. C'est admirable, cette tête de Pierre-Julien-Aymard par Auguste Rodin. Celui qui a vécu avec la sœur de Paul Claudel, n'est-ce pas, Camille Claudel? On a tellement parlé de ce film, Camille Claudel. Alors, ils sont arrivés à Montréal en 1890, les Pères du Saint-Sacrement. Puis le progrès de cet institut était le fruit, évidemment, du travail, puis des souffrances de Saint-Pierre-Julien-Aymard. Il y a toujours des souffrances inhérentes à toutes les fondations, on le voit, hein, je vous parle souvent de fondations, c'est épouvantable, parce que les fondateurs ont de la difficulté. Le Christ a fondé l'Église, et quelle difficulté il a eu aussi, hein? Alors, on dirait que ça fait partie des choses, hein. Comme si le Seigneur se plaisait, manifestement, ajouter des difficultés. Et c'était le cas surtout dans les toutes dernières années, où Saint-Pierre-Julien-Aymard avouait à un confident, « Cette fois, je suis écrasé sous la croix, je suis renversé. » Il va même jusqu'à dire « Je suis anéanti. » Et Dieu lui faisait dire « Il faut qu'il souffre parce qu'il est père. » J'aime bien ça, hein? Oui, être père. M'entendez, les pères de famille, moi j'ai été père d'un enfant, on souffre. Parce qu'on aime tellement. Et puis tous les malheurs de notre fils ou de nos enfants nous déchirent jusqu'au pont des entrailles. Alors il faut qu'il souffre parce qu'il est père, qu'il se rappelle bien, qu'il s'est offert comme une hostie. Une hostie pleine d'amour, et c'est l'amour, hein, qui dévore le cœur des pères et des mères. Puis ces dernières années ont été abreuvées de déboires, de toutes sortes de soucis d'argent, d'échecs, de contradictions. Même parmi ses fils, chez qui la confiance se dérobait, et son premier compagnon cherchait à le quitter puis à réaliser autre chose en dehors des Pères du Saint-Sacrement, et lui-même se remémorait l'exemple de tous les fondateurs persécutés par leurs enfants. Puis il s'ajoutait à leur liste, puis s'offrait ainsi en disant, « Eh bien, mon Dieu, me voici avec Jésus au jardin des Oliviers. Alors voulez-vous que tous m'abandonnent, que tous me renient? Eh bien, me voici, Seigneur, brûlé, taillé, dépouillé, humilié. Ô Jésus. » Pas longtemps avant de mourir, il a mis en garde ses jeunes novices, Saint-Pierre-Julien-Aymard, les jeunes novices des Pères du Très-Saint-Sacrement, contre certaines erreurs. Il dit « L'amour positif que je vous conseille et que je désire, donne du sien. » Cet amour positif ne travaille pas pour ne pas se donner. Car celui qui se mortifie par justice, en ayant peur de Dieu, de la justice de Dieu, obtient la paix. Mais celui qui le fait par amour obtient quoi? La joie, l'expansion. Il revient sur la mortification de justice. Ceux qui ont peur de Dieu ne prouvent pas qu'on aime Dieu plus que soi-même. Mais la mortification d'esprit va droit à Dieu, elle. C'est-à-dire la mortification d'esprit dans l'amour. Il ajoute, « Ah, quel moyen de s'approcher de Dieu! Si je l'avais connu à 15 ans, mais je l'ai connu trop tard. » Il l'a connu trop tard. Il dit des choses superbes aussi. Il dit, « Il y a un grand changement dans ma vie spirituelle. Je ne suis plus aussi gai. Je suis inquiet, ennuyé de tout. Je voudrais tout et quand j'ai quelque chose, j'en suis dégoûté. Ô mon Jésus, il n'y a que vous qui puissiez remplir mon cœur. Ô, recevez-moi encore. » Et j'aime bien quand il dit aussi, « Je n'aime rien. Tout me laisse vide et triste. Aucun désir ne peut me consoler. Les saintes lectures même ne me contentent pas. Je cherche. C'est vous, ô mon Jésus, qu'il me faut. Oui, je le vois. C'est le bon Jésus qu'il me faut. Puis, il ajoute quelque chose d'un peu terrifiant dans lequel je me reconnais et peut-être que vous allez vous reconnaître, mais je n'ai pas le courage de me donner à lui. C'est le bon Jésus qu'il me faut, mais je n'ai pas le courage de me donner à lui. C'est la plus grande souffrance, hein, c'est celle de n'être pas des saints. Faudrait attendre pour voir le saint à la fin de sa vie. Il livre tout le secret de cette rencontre avec Dieu qu'il a faite au cours de sa vie. Il dit « Aspirez dans vos oraisons à vous nourrir plutôt de Dieu qu'à vous purifier, qu'à vous humilier. » Il écrit ça à 56 ans. Et pour cela, nourrissez votre âme de la vérité personnifiée en la divine bonté de Dieu envers vous, de sa tendresse, de son amour personnel. Voilà le secret de la vraie oraison, si vous préférez, de la véritable oraison. Voilà le secret. C'est de voir l'action et la pensée de Dieu dans son amour pour nous. Je répète, c'est de voir l'action et la pensée de Dieu dans son amour pour nous. Quand l'âme a le bonheur de trouver ce bon côté, l'oraison est plutôt une contemplation délicieuse, et l'heure passe vite. Oh, j'en ajoute un autre texte, qui est si beau. Vous pouvez bien méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, mais non comme modèle d'expiation et de pénitence, mais plutôt comme preuve de son amour pour vous et pour nous tous. Je répète parce que c'est fondamental. Vous pouvez bien, mais il est écrit en 1867, ça fait donc 130 ans. Saint-Pierre Julien Aymard, c'est lui qui parle. Vous pouvez bien méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, mais non comme modèle d'expiation et de pénitence, mais plutôt comme preuve de son amour pour vous et pour nous tous. Pour ôter à la croix inséparable de cette vie, ses aspérités et ses horreurs, l'amour de Jésus a fleuri sa croix des fleurs du paradis. Il est évident que la vue pénétrante de ce grand saint, de l'aspect positif de la croix, n'a pas été suivie immédiatement de tout son plein effet dans sa vie. Mais on a cependant un grand assouplissement de son attitude habituelle. Dans les années 1835-36, il y avait une espèce d'âpreté chez lui, mais elle s'atténue dans son journal intime. Puis, quand il s'attaquait de façon, comme il dit, avec des propos belliqueux, contre la pauvre nature humaine, ben ça, ça perd son relief. Et le sens du péché entre maintenant en partage avec le sens du Père qui aime. Je reviens à ce que je vous disais au sujet de Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus quand on découvre que Dieu, notre Père, nous aime profondément. Tout change. Tout change. C'est une transformation. Je puis ça dans un beau livre que m'avait offert le Père Louis-Philippe Lépine de la Congrégation des Prêtres du Très-Saint-Sacrement. En 1962, alors que j'avais fait un film à la télévision de Radio-Canada sur Saint-Pierre Julien Aymard qui a été canonisé, justement en 1962. Cher Père Lépine, comme je l'ai aimé, ce Père, comme il était bon. La vie et l'activité de Saint-Pierre Julien est toute centrée sur le mystère de l'Eucharistie. Au tout début, son approche est peut-être, on doit l'admettre, tributaire de la théologie de son temps. Il mettait l'accent sur la présence réelle un peu trop fort, en oubliant un peu trop l'Eucharistie proprement dite, c'est-à-dire l'action de grâce qu'est la messe. Puis aussi l'aspect réparateur. Cependant, il va parvenir à se libérer peu à peu de cet aspect dévotionnel et réparateur, justement, dans lequel on peut dire que la piété eucharistique baignait dans ce temps-là, piété de son époque. Il va réussir à faire de l'Eucharistie, justement, le le centre de la vie de l'Église et de la société qu'il a fondée, en disant aucun autre centre que Jésus eucharistique. Le Saint-Sacrement m'a toujours dominé, c'est ce qu'il écrit dans les notes de sa dernière retraite personnelle. Il y a de très beaux livres, j'en ai de Saint-Pierre-Julien Mar, hein, la Divine Eucharistie, des retraites au pied de Jésus Eucharistie, j'ai les écrits spirituels de Pierre-Julien Mar, j'ai sa grosse vie, mon Dieu, ça fait 50 ans que j'ai ça dans ma bibliothèque, ça fait 50 ans cette année, une grosse, grosse vie, c'est pas signé, c'est par un Père Saint-Sacrement, c'est magnifique, il y a des choses superbes là-dedans. Alors, le Saint-Sacrement, il dit, m'a toujours dominé. Puis il caractérise ainsi, de façon incisive, la forme de vie chrétienne qu'il propose. Au centre, il y a la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et fidèle à la théologie qui a suivi le Concile de Trente, il y a déjà bien des siècles, Saint-Pierre-Julien Aymar souligne fortement le fait de cette présence, son caractère unique. Est-ce qu'on y croit encore à la présence du Christ dans l'Eucharistie? Des fois, je me le demande quand je vois la façon dont on lui donne la communion et surtout la façon dont on la reçoit. Car l'Eucharistie, c'est la personne du Seigneur. À la fin de ses jours, il disait, l'Eucharistie est. Puis, il pouvait pas ajouter un mot, parce que pour lui, elle est. Il était bouleversé. Alors, il y a des affirmations où il exprime sa foi de façon magistrale. Il dit, la Sainte Eucharistie est Jésus passé, présent et futur. C'est Jésus devenu sacrement. Bienheureuse l'âme qui sait trouver Jésus dans l'Eucharistie et en Jésus hostie tout le reste. Hein? Oui, en Jésus hostie tout le reste, on s'arrête pas là. Jésus a les bras ouverts. Il englobe l'univers. Il dirige le cœur des saints et des saintes vers les plus pauvres comme les plus riches qui sont pauvres dans leur cœur et dans leur sottise et dans leur richesse. Il les dirige vers les âmes un peu perdues dans les cloîtres, qui ont perdu un sens à leur vocation ou qui sont dans une aridité terrible. Il les dirige vers les enfants qui n'ont rien appris de leur foi. Il les dirige vers les jeunes couples qui ne savent plus. Il les dirige vers les gens malades. Jésus nous dirige vers tous ceux qui ont besoin de nous, et même en soulignant cet aspect personnaliste de sa dévotion ou de son culte à l'Eucharistie, le Père Julien Aymar, Pierre-Julien Aymar, comprend que cette présence de Jésus est l'origine d'un dynamisme. Elle est liée à la mission. C'est une grâce d'apostolat à la foi en Jésus, dit-il. Jésus est là, donc à lui, par lui, en lui, allons. Et cette foi en l'Eucharistie se nourrit de la méditation de la parole de Dieu. Ah, si vous saviez quand on lit ça, c'est passionnant. Dans Jésus-Marie notre temps, un jour, on avait publié toute une page sur l'origine biblique de la pensée de Saint-Pierre-Julien Aymar. Une très belle page. Oui, dans Jésus-Marie notre temps, vous savez qu'il y a des choses intéressantes. En particulier, il y a l'horaire de rencontres spirituelles, bien oui. Comme de même dans l'Église de Montréal, la revue du diocèse de Montréal, il y a le 21 août, on a publié l'horaire de septembre, et puis vers la même date, au mois de septembre, on a publié l'horaire d'octobre, et ainsi de suite, dans la revue l'Église de Montréal. Mais alors revenons à la pensée de Saint-Pierre-Julien Aymar. Je voudrais ajouter que, pour lui, c'est un moyen de se laisser pénétrer par l'amour du Christ, contempler une hostie dans l'ostensoir, se laisser pénétrer par le regard de Jésus, par son cœur tout brûlant d'amour, par ses bras tendus. C'est un moyen de se laisser pénétrer par son amour. Et la vie spirituelle est essentiellement ça. Partager cet amour, y répondre, et dire « Père » avec une confiance si absolue qu'aucune souffrance ne peut plus nous atteindre, comme disait Marthe Robin, « Je ne souffre pas, j'aime. » Comment faire pour vivre sans vénérer l'Eucharistie, sans approcher de l'hostie en se disant, Seigneur, c'est toi. C'est toi. Je ne veux rien d'autre que toi. La mort de Saint-Pierre-Julien Aymar est une mort à la fois pénible que je vous raconte brièvement. Vers les 7 heures du matin, il reçoit la communion en viatique, toujours ce mot qui revient, pour le voyage vers l'au-delà, en viatique. Dans la matinée, le médecin déclare qu'il y a épuisement complet. Il déclare que ses fils, ses pères du Saint-Sacrement, devraient s'attendre d'un moment à l'autre au dénouement fatal. Saint-Pierre-Julien Aymar commence à faire ses adieux d'une manière bien touchante et bien paternelle. Chacun vient mettre la tête sous sa main et lui demander une dernière bénédiction. Le père Chanuet écrit, je le prie expressément de bénir la Société du Très-Saint-Sacrement et lui demander à plusieurs reprises s'il avait quelque chose à dire. Et d'un air qui révélait sa parfaite confiance en Dieu, il a répondu simplement non. Et même à ses dernières heures de sa vie, il avait encore le secret de consoler ceux qui l'entouraient. À tout instant, c'était de sa part de nouveaux témoignages de bonté, donnés par un signe ou un simple regard. Vers 11h30, il fut agité par un nouveau spasme et on a cru qu'il allait mourir. Tout le monde s'est précipité autour de son lit et l'on a récité les prières des agonisants, mais cependant le calme est revenu. Mais à 2h de l'après-midi, on a compris que le moment suprême était venu. On recommença la récitation des prières. Le père Aymar s'y est uni. Il demandait à chaque instant des prières au Saint-Sacrement. On sentait qu'une foi invincible le tenait uni au divin objet de son amour. Objet avec un O majuscule. On sentait qu'une foi invincible le tenait uni au divin objet de son amour. Peu à peu, la respiration s'est ralentie. Et bénissant pour la dernière fois tous ceux qui étaient penchés sur lui, il s'est éteint doucement. Le regard fixé sur une image du crucifix au pied de son lit. Et c'est ainsi que vers les 2h30 de l'après-midi du samedi 1er août, fête de Saint-Pierre-Aulien, l'âme du fondateur de la congrégation du Très-Saint-Sacrement. Et je lis le texte qui est paru il y a longtemps, c'est un texte des années 20, ça. C'est à la page 548 du tome 2. L'âme du fondateur de la congrégation du Très-Saint-Sacrement brisait elle-même les liens qui la tenaient captive dans la prison du corps pour s'en aller au ciel, commencer l'adoration qui dure toujours et ne s'interrompt jamais. C'est vrai que dans un sens, notre corps peut être considéré comme une prison. Mais ça peut être aussi considéré comme cet immense miracle qu'il est et notre compagnon éternel, car il est appelé à la résurrection. L'Eucharistie, c'est la vie des peuples. L'Eucharistie donne au peuple un centre de vie. Tous peuvent se rencontrer sans barrière de race ni de langue, pour la célébration des fêtes de l'Église. A-t-on conscience de l'immense rassemblement qu'une Eucharistie bien célébrée suscite dans le cœur des hommes de toute race, des sexes, d'âge, de conditions sociales, etc. Ils viennent. Et nous communions tous ensemble. Tous peuvent se rencontrer sans barrière de race ni de langue. Elle leur donne une loi de vie, celle de la charité, dont elle est la source. Elle forme ainsi entre eux un lien commun, une parenté chrétienne. Et dans la messe, la splendeur des textes est aussi touchante pour un homme simple que pour quelqu'un de très instruit. J'ai toujours vu, quand j'allais travailler à Paris, aux messes où j'assistais, que ce soit à Saint-Germain-des-Prés ou ailleurs, des membres de l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, des grands savants, des professeurs de Sorbonne, près d'un pilier, assistant pieusement à la messe et communiant avec une foi aussi grande que celle des gens les plus simples. Tous mangent le même pain. Tous sont convives de Jésus-Christ. Oui. On se laisse pénétrer par l'amour du Christ. Car Jésus-Christ crée entre tous ceux qui participent. Surnaturellement, il crée une sympathie de mœurs fraternelles. Si c'est bien vécu, et pourquoi ça ne le serait pas? Quand on lit les Actes des apôtres, hein, il est bien affirmé que la multitude des premiers chrétiens, là, les Juifs convertis, puis les païens baptisés appartenant à différentes régions n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Pourquoi qu'on ferait pas pareil? Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, ils étaient assidus à écouter la doctrine des apôtres, puis ils étaient persévérants à participer à la fraction du pain, comme il est dit au deuxième chapitre des Actes des apôtres. Alors, l'Eucharistie est la vie des âmes et des sociétés, comme le soleil est la vie des corps et de la terre. Pensez que le soleil est comme le Verbe divin. Et comme Jésus-Christ qui illumine tout homme venant en ce monde et qui par l'Eucharistie, sacrement de vie, agit en personne, au plus intime des âmes, pour former ainsi des familles puis des peuples chrétiens. Oh, heureuse et mille fois heureuse, toutes les âmes qui m'écoutent et qui sont fidèles et qui ont trouvé ce trésor caché et qui vont boire à cette fontaine d'eau vive et qui mangent souvent ce pain de vie éternelle. Heureux et heureuse êtes-vous, car vous avez trouvé la source de la vie, la source de la vie. Il y a tellement de beaux livres sur l'Eucharistie, je prends de Patrice Latour-Dupin, Concert Eucharistique, que de beaux textes, c'est paru chez Desclés il y a déjà longtemps, mon Dieu, en 1972. Ah, les poèmes de Patrice Latour-Dupin sont de toute beauté. Il y a ce petit livre, là, Ils m'ont dit l'Eucharistie, puis il y a des citations même de Luther et de Calvin qui disent des belles choses, puis il y a le cardinal Ratzinger, puis il y a Ambroise de Milan, puis il y a Charles de Foucault, puis il y a Théard de Chardin, puis il y a Thomas d'Aquin, toutes sortes de belles choses sur l'Eucharistie, magnifique, tout petit livre, et tellement d'autres choses. Puis ici à Montréal, aux éditions Pauline, prier devant le Saint-Sacrement, la 12e célébration, de très très belles choses aussi, c'est paru, oh, c'est encore en vente ça, paru en 1990, comme encore aux éditions Pauline, prier ensemble, célébration devant Saint-Sacrement, hein, en 86, et puis, je ne saurais pas, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est « De l'Eucharistie à la Trinité » par le père Bernardo. Très, très beau livre. Hein. Alléluia, mon cœur est prêt, Seigneur. Je chanterai, je ferai résonner la louange, c'est là ma gloire. Ah, debout, ma lyre, éveillez-vous, ma harpe. Je veux te louer, ô Seigneur, parce que ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Viens à notre aide dans la tribulation. Le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons de grandes choses. Oh, je veux chanter éternellement les miséricordes du Seigneur. Alléluia. C'est un extrait des psaumes. Et les Juifs sont en grande fête ces jours-ci. C'est le Rosh Hashanah. Ce sera le Yom Kippour bientôt, bien nous. Tous les jours, c'est notre fête. C'est la fête de l'Eucharistie. C'est la fête de Dieu tous les jours. Nous sommes toujours en fête. Ah, comment ne pas aller à la messe tous les jours, hein?